c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. C'est tout de suite, mais auparavant, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne matinée. C'est l'hiver, quoique aujourd'hui, on dirait que le temps se radoucit. Alors j'espère que au fond de vous, dans votre cœur, vous jouez calmement une veilleuse avec tout plein de pensées positives et chaleureuses. Que cette journée vous soit agréable et douce. Doudouce, comme le dit Jacques Dutronc.
Elle nous refait.
La vie douce avec Radio Plus. Oui, c'est un réveil en douceur, je vous l'accorde. Doucement, dans l'air du temps, aujourd'hui dans notre rubrique « Saletant sur la planète », Jean-Louis Ouattet nous rappellera que la glace de l'Antarctique ne fond pas doucement, mais très très vite, plus vite que jamais, puisqu'elle va 6 fois plus vite qu'il y a 40 ans, avec bien évidemment toutes les conséquences que cela implique. Tout doux aussi au jardin en cette période, mais Bertrand Trinel sera de toute façon avec nous pour notre rubrique « Jardiner autrement ». Et puis ensuite, place aux femmes à nouveau cette semaine avec Bernadette Capelle, qui cette fois nous présentera l'association Femmes Solidaires pour la Paix qu'elle a fondée. Les jours d'honneur, certes, mais les activités continuent pour cette militante au grand cœur qui rêve d'un avenir meilleur, notamment pour les femmes afghanes.
Des palabres joyeuses éclaboussées de rire. Je rêve, oh, je rêve.
Un banquier de mendiants, lumineux comme un ciel, éclaire la nuit festive de mon rêve universel. Je rêve, les yeux ouverts, je rêve.
L'horizon bouché ne m'enfermera plus. Mes yeux se sont habitués à la lumière entrevue. Je rêve, éperdument je rêve.
Je rêve et j'espère la nuit transfigurée. Dans les nouveaux déserts, vivre c'est espérer. Libération.
Cette jeune fille au sourire qu'on appelle espérance. Je rêve, oh je rêve.
Je vois ma mère et mon père assis main dans la main, contemplant la nuit claire comme un couple enfantin. Je rêve, les yeux ouverts, je rêve.
Je rêve et j'espère, je peux plus m'arrêter.
Paternité.
J'ai tellement besoin de rêver. Oh, tellement besoin. Tellement besoin de rêver. Oh, tellement besoin.
Nostalgie du futur ou parfum surnaturel.
Je rêve, oh je rêve.
Mon rêve se réalise au plus profond de moi. Tu te t'es promise, c'est l'avenir et c'est toi. Je rêve, les yeux ouverts, je rêve.
Je rêve et j'espère, je ne veux plus m'arrêter. J'espère en hiver voir le printemps l'emporter. Libération.
Paternité.
J'ai tellement besoin de rêver. Oh, tellement besoin. Tellement besoin de rêver. Oh, tellement besoin. Tellement besoin de rêver. Oh, tellement besoin.
RM sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps aujourd'hui, c'est Vive la famille. En effet, une étude publiée dans un journal Mariage et Famille révèle qu'en Europe, les parents passent deux fois plus de temps avec leurs enfants qu'il y a 50 ans, soit en moyenne entre 54 minutes et 1h45 par jour. Les mères danoises sont les championnes en consacrant environ 3h45 par jour à leur progéniture.
Bon d'accord, vous savez marcher. Clopin clopant d'abord, vous avancez. Rien que le temps de le dire, vous savez déjà courir. Non, ne vous dépêchez pas surtout de faire de tête de plus que nous. On est super fort quand on ouvre un pot de confiture. Moins vite, traîner en chemin, qu'on en profite. Moins vite, laissez dans nos mains vos mains si petites. De précieux cailloux au fond des poches, et par-dessus tout, les moufles qui pendent des manches. Moins vite. Ok, 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 vous savez manger. On va pas en faire tout un plat de cette purée. Les biberons ne sont pas encore secs, on sort déjà la cuillère en plastique. Ces petits vêtements beaucoup trop grands, ils ne vous vont plus depuis longtemps. On vous dépose à la crèche un matin, on vous récupère en CM1. Moins vite, traînez en chemin, qu'on en profite. Moins vite, laissez dans nos mains vos mains si petites, de précieux cailloux au fond des poches, et par-dessus tout, les moufles qui pendent des manches. Vous savez parler, même si le vocabulaire laisse à désirer. Vos phrases tagada, j'admets qu'on ne les corrige qu'à regret. Ça pour dessiner, ça dessine. Patientez que le temps lentement patine, qu'il sèche le feutre sur les murs avant d'écrire vos noms sans rature. Déjà, chemin, qu'on en profite. Moins vite, laissez dans nos mains vos mains si petites, de précieux cailloux au fond des poches, et par-dessus tout, les moufles qui pendent des manches. Moins vite.
Benabar sur Radio Plus, moins vite, c'était le titre, moins vite. On voudrait bien que l'Antarctique fonde moins vite, mais ça n'est pas le cas. Et on retrouve Jean-Louis Ouatté.
Ça danse sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
La calotte glaciaire de l'Antarctique fond beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, avec plus de 200 milliards de tonnes de glace dans les océans chaque année, selon une nouvelle recherche réalisée par 24 scientifiques de 44 organisations internationales
Et bon, cela a été publié cette semaine. Alors tous les journaux l'affichent, nous en avons souvent parlé. Et malheureusement, nos prédictions les plus négatives sur la fonte des glaces s'avèrent exactes, voire pires. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors une chose me désole dans cette rubrique Jean-Louis, c'est que nous ne sommes jamais annonceurs de bonnes nouvelles. Et cette fois nous sommes encore relayeurs d'une catastrophe annoncée pour cette calotte glaciaire environ 3 billions, comment dit le prof de maths, 3 billions de tonnes de glace qui ont disparu depuis 1992. Alors la vitesse de fonte a été multipliée par 3 au cours des 5 dernières années et pourrait, selon une étude distincte, conduire à une élévation de 25 cm de la mer d'ici 2070, ce qui aurait un impact désastreux dans le monde entier. Alors Jean-Louis, je suppose que l'étude est sérieuse ainsi que les observations.
Tout à fait, c'est une étude plus que sérieuse. Je rectifie, vous avez dit 24 scientifiques, c'est 84 scientifiques de 44...
Oui, 84 de 44 organisations, oui, tout
voilà,
à fait.
Donc c'est quand même quelque chose d'hyper sérieux. Et puis on a maintenant les outils qui s'affinent de plus en plus, hein, avec les données satellites, et donc on faut prendre très au sérieux ces chiffres. Alors il faut savoir que de précédentes recherches ont suggéré que la glace de l'Antarctique fondait déjà plus vite au cours des 20 dernières années que les 10 000 dernières, mais on sait maintenant que le pronostic est encore pire. Hein, si la fonte se poursuit à ce rythme, on pourrait s'attendre à une augmentation supplémentaire de 15 cm du niveau de la mer d'ici 2100, en plus des projections actuelles. Donc il y a eu une forte augmentation depuis 2012 du taux de perte de glace. Avant 2012, l'Antarctique perdait 76 milliards de tonnes de glace par an, ce qui équivaut à une évaluation annuelle du niveau de la mer de 0,2 mm. Mais aujourd'hui, l'Antarctique perd 219 milliards. Donc on passe de 76 à 219 milliards de tonnes par an, ce qui équivaut à une élévation du niveau de la mer de 0,6 mm par an. Donc les compteurs ont été revus à la hausse, hein. Près de 90%. Alors il faut savoir que c'est pas homogène, hein. Plus de 90% des glaces se trouvent dans l'Antarctique Est, et qui est resté relativement stable malgré le réchauffement climatique. Par contre, l'Antarctique Ouest y est beaucoup plus sensible, en particulier la péninsule antarctique où plus de 6500 km² de glace sont déjà tombés dans la mer. Donc, au cours des 25 dernières années, la période qui a été couverte par l'étude, presque toute la masse de glace perdue l'a été dans l'Antarctique Ouest.
Alors, Jean-Louis, je parlais d'impact désastreux dans le monde entier parce que on dit souvent que la santé de l'Antarctique est intimement liée à l'écosystème mondial et à la durabilité de la vie humaine. Mais justement, que va-t-il se passer si cela continue à fondre ?
Si ça continue à fondre, il y aura forcément, comme je viens de le dire, une augmentation du niveau des océans, avec, on peut imaginer, des centaines de millions d'habitants qui risquent d'être déplacés, hein. Donc, au niveau de ces habitants, ce sera un gros problème de migration, hein, qu'il va falloir gérer. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a une modification des courants océaniques, hein, parce que l'effet de cette fonte de l'Antarctique, eh bien, ça modifie les courants et ça perturbe le climat. Alors une chose aussi dont on parle pas beaucoup, c'est le permafrost, hein, et l'effet de serre. Savoir que le permafrost, c'est une couche de gel qui recouvre les sols, les zones humides des régions polaires, par exemple en Sibérie. Il faut savoir que c'est une bombe à retardement dans le compte à rebours qui est déjà amorcé, puisque ces sols contiennent en effet deux fois plus de carbone que l'atmosphère. Et le dégel du permafrost va donc entraîner le relâchement dans l'atmosphère d'importantes quantités de dioxyde de carbone et de méthane. Et c'est un gaz à effet de serre 24 fois plus puissant que le CO2. Donc à prendre très au sérieux, et on n'en parle pas beaucoup. Et puis il faut savoir que 70% de l'eau douce de la Terre est gelée. Que ce soit les glaciers, les calottes polaires, le permafrost, on vient d'en parler. Et il faut savoir que la fonte des glaciers, ça affecte aussi les pays comme l'Europe, hein, les Alpes, ça affecte l'Himalaya. Il y a beaucoup de rivières qui dépendent des glaciers dans les montagnes pour leur approvisionnement en eau. Et en cas de fonte des glaciers, ça va permettre, dans un premier temps, ça va approvisionner les villages, irriguer les champs. hein, faire tourner des centrales électriques. Mais étant donné que les glaciers diminuent, bah, la fonte va entraîner très vite une réduction de l'approvisionnement en eau. Et à long terme, la fonte des glaciers pourra engendrer une pénurie importante d'eau potable ou d'irrigation pour l'agriculture. Bon, c'est le cas par exemple des glaciers de l'Himalaya, hein, qui alimentent 7 grands fleuves d'Asie, hein, entre autres l'Indus, le Gange, le Mékong, le Yangtze-Kiang. Donc tout ça, c'est des millions et des millions de personnes qui sont approvisionnées par ces glaciers. Et puis, bon, pour terminer, faut savoir que la fonte des glaciers, bah, ça va engendrer des petites bagarres, hein, puisque ça ouvre de nouvelles routes maritimes au pôle Nord. Et puis, ça va aussi, certains vont rechercher du gaz et du pétrole, alors qu'il faut se passer, on le dit, on le répète, il faut se passer des ressources du pétrole et du gaz, eh bien, ça va au contraire attiser les recherches. Voilà.
Vous
Donc,
êtes en tra-
le tableau est.
Ben oui.
Est
C'est ce que je disais. Vous êtes en train de nous faire un beau film catastrophe
voilà.
là.
Ben oui, je pense qu'il faut être réaliste. Hein.
Ouais.
On est quand même dans une situation
critique, on va dire,
inquiétante.
Oui. Alors, au niveau de la faune, je suppose, bien évidemment, puisqu'elle est forcément liée au dessein de l'homme, la faune, c'est un désastre aussi.
Bah oui, forcément. Puis dans la faune, l'homme est un élément de la faune.
Tout à fait.
Très, très important. Donc il va y avoir une modification irréversible des habitats pour la faune, mais aussi pour les hommes. Et puis voir un petit peu que cette fonte des glaciers, ça engendre des changements climatiques. On le voit bien en ce moment avec ce qui se passe en Australie, hein, puisque on a une sécheresse catastrophique en Australie. On a vu des images de kangourous qui étaient complètement anéantis dans des lacs qui étaient asséchés. On a aussi pu lire que des serpents se réfugiaient dans les habitations pour trouver un peu de fraîcheur. Donc tout ça, la faune est particulièrement touchée, sans compter toutes les espèces invasives qui vont pouvoir se développer. On pense particulier aux moustiques et puis au cas d'épidémie. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère.
Tout à fait. Mais alors Jean-Louis, est-ce que le changement climatique est le seul fautif?
Oh bah oui, hein, je pense que là il faut être faut pas tomber dans le panneau des informations qu'on peut lire ça et là, notamment du président américain, hein, qui dit ah oui, le réchauffement climatique avec les moins 50 degrés qu'on a vécu à Chicago, non, le changement climatique c'est le seul motif de cette
situation,
cette fonte,
oui, cette fonte, tout à fait.
Bon, on peut lire des trucs fantaisistes, hein, sur Internet, notamment, je voyais sur un site que c'était le noyau de la Terre qui se réchauffait beaucoup et qui faisait fondre. Bon, tout ça, c'est quand même fantaisiste. Donc, le changement climatique, c'est quand même le point essentiel.
Tout à fait. Alors, Jean-Louis, bon, on l'a compris, vous n'êtes pas optimiste. Vous êtes bon. Est-ce qu'on va dire que vous êtes franchement pessimiste ou réaliste?
Bah,
bon, question.
Question. En fait, je suis un peu pessimiste, mais il y a encore des portes d'espoir. Mais
justement,
il y a urgence à agir parce qu'on risque d'arriver à un point de non-retour. Bon, on a quand même, pour rester optimiste, on a quand même des études scientifiques de plus en plus pointues qui montrent que bon, les moindres actions qu'on peut faire ont un impact non négligeable et donc il s'agit pas de laisser tomber toutes les petites actions, toutes les petites rivières font un grand fleuve et donc ça permet de eh bien d'avoir des solutions pour justement limiter ce réchauffement climatique dans des zones acceptables.
Donc on peut encore agir, mais
bien sûr.
Alors on va quand même se poser la question, les efforts réalisés jusqu'ici ont-ils servi à quelque chose?
Bah oui, les efforts, si on n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, on aurait quand même eu encore une situation beaucoup plus
dramatique.
Et donc, ça, c'est le problème des lancements d'alerte. Quand on lance une alerte, on se dit, bon, est-ce que ça a été efficace ou pas? Bah, c'est toujours efficace, hein, parce que si on ne lance pas d'alerte, le public n'est pas au courant.
N'est pas sensibilisé.
Les actions ne sont pas engagées. Et donc, non, je pense que il faut rester optimiste, mais bon, il faut poursuivre ce lancement d'alerte.
D'accord. Alors, bon, Jean-Louis, on a quand même compris qu'il va falloir apprendre nos enfants à nager.
Oui, je crois que...
et surtout, plus de glaçons dans le pastis, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. Donc,
Allez, voilà. On va en sourire quand même, hein, parce que c'est vrai que l'atmosphère, on constate que la situation est plutôt gravissime. En tout cas, Jean-Louis, merci pour ces éclaircissements, et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bonne semaine.
Et soignez votre rhume, Jean-Louis.
Oui, je l'ai soigné parce que là, je suis bien attaqué.
Merci à vous.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Dans longtemps, mais on sait plus trop ce que veut dire longtemps. C'est sûr, les bouches du métro vont boire pour leur content. L'hippodrome, l'île de la Cité, Rouen, Ivry, le Mont-Saint-Aignan verront paître des cétacés et monter des swings d'océan. On trinquera dans l'univers des étoiles givrées en guise du jus de glaçon plein au verre quand auront fondu les banquises. Quand auront fondu les banquises, on verra le dernier pingouin en queue de pie sur les marquises danser sur la tombe à Gauguin. On se rappellera d'hier, de brise-glace et d'Atalante, quand le feu plantera sa cuillère au milieu des îles flottantes. Quelques rêveurs diront encore, c'est une ruse, elle se déguise pour souffler la terre, fait le mort quand auront fondu les bancs. Colombe de Braque aura chuté de la falaise. Ce jour entassé sur nos barques, on vivra debout sur nos chaises. L'horizon loin de l'horizon, les étoiles seront noyées. Patiné sera plus de saison dans cet arche humain de Noé. Un million d'été saluera la dernière plage conquise avec des flammes plein les bras quand auront fondu les banquises. L'apéro Vatican. Fini la neige et le grêlon, d'autres galaxies les emportent. Vivre nous quitte à reculons, glissant ces icebergs sous nos portes. Dans 1000 ans, peut-être plus d'heures, fini les couteaux qu'on aiguise pour l'assiette du prédateur, quand auront fondu les banquises.
Ah oui, n'est-ce pas qu'elle est belle, cette chanson? C'était Alain Leprest sur Radio Plus. Alors, ces derniers jours, c'est la neige qui a fondu. Excellent pour les jardins, nous a dit la semaine dernière Bertrand Tinel, que l'on retrouve tout de suite pour notre rubrique Jardiner autrement.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, la veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. Mais il y a un autre dicton qui dit « Le lendemain de Sainte-Blaise, donc aujourd'hui, souvent l'hiver s'apaise, mais si vigueur il reprend, pour longtemps on s'en ressent. » Donc, comme je disais, la Sainte-Blaise, c'était hier, on regarde le temps. Alors, pourrons-nous dire, Bertrand, qu'à cette Saint-Véronique, les marchands de marrons peuvent plier boutique? Je crois, hein, il a l'air de faire plus doux, en tout cas les températures sont un petit peu plus douces. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pense le jardinier?
Moi, pour l'instant, l'hiver, franchement, comme vous le dites, ne lâche rien. Hein. Ceci dit, on est qu'au milieu de l'hiver, donc le gel et la neige, c'est vraiment du beau temps. Hein. C'est parfait, donc alors on va surtout pas se plaindre, et puis on va voir comment ça suit. Hein. C'est vrai qu'effectivement, on pourrait dire que l'hiver va lâcher un peu, va passer, parce qu'il fait doux aujourd'hui. Mais bon, on est qu'au milieu de l'hiver. Hein.
On se méfie, parce que si février est le mois le plus court, il peut être aussi le plus mauvais, avec à nouveau des gels, neige et vent. Il faut bien s'y résoudre. Oui, comme vous dites, c'est toujours l'hiver. Alors je suppose, Bertrand, qu'à cette époque de l'année en jardinage, il faut être plus attentif encore à la météo. Alors est-ce que par ce froid, la nature peut tout de même se réveiller, nos arbres, par exemple?
Alors pour les arbres, c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire simple. Les arbres, déjà, se préparent bien à l'avance à faire face aux rudes conditions climatiques hivernales. Hein. Les jours qui raccourcissent en été, après l'été, ils vont donner le signal de la préparation, qui est quand même assez longue. Hein. Donc l'hiver, les arbres rentrent en dormance, ils se protègent du froid, ils arrivent à réduire, au-dessous de 8 degrés, ils vont arrêter la division de leurs cellules et puis ils bloquent aussi les hormones de croissance. Donc de ce fait, les arbres à feuillage caduc ou persistant, même les persistants, cessent toute activité de croissance. Donc ils vont enclencher un processus antigel qui vont leur permettre d'abaisser leur point de congélation de leurs cellules, et donc ils vont éviter qu'elles n'éclatent au gel. Hein. Et bien sûr, cette capacité est différente selon les espèces. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des arbres qui résistent à moins 5, et qui résistent à moins 10, un noyer va résister à moins 20, et il y a des arbres, des pins, tout ça, qui vont résister à près de moins 80. Donc effectivement, dès février, hein, en ce moment, les arbres, la croissance des arbres est relancée. Donc c'est vraiment très très lent. Hein. Et c'est grâce au froid que la dormance est levée, car pour sortir de la léthargie, l'arbre doit avoir accumulé des heures froides inférieures à 7 degrés pendant 3 à 4 semaines. Donc déjà une bonne période hivernale. Et bien sûr, après, il faut qu'ils accumulent une période de chaleur avant vraiment de redémarrer. Mmh. Alors pour l'instant, on voit les bourgeons qui sont protégés par des écailles, qui les protègent du gel, mais ça commence à redémarrer, la sève est bien là.
D'accord.
Bon, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, pour expliquer, ça serait trop long.
D'accord, donc on voit qu'en effet, c'est un arbre est quand même une, comme vous nous l'avez déjà dit, Bertrand, c'est quand même une vie. Et donc, une vie dans toute sa complexité, hein, on peut s'en apercevoir. Alors, Bertrand, est-ce qu'il est trop tôt pour voir apparaître le personnage, cette petite fleur mignonne comme tout?
C'est pas trop tôt du tout, dont les Galanthus, hein, ou personnages, hein, portent très bien leur nom, parce que la semaine dernière, ils perçaient la neige, nous, dans le jardin, les personnages perçaient la neige. Donc, en ce moment, on peut apercevoir leur petite clochette blanche. Ouais, c'est que du bonheur, parce qu'on se dit que le printemps sera bientôt là.
Alors justement, Bertrand, de nombreux légumes font la fierté des jardiniers et des maraîchers de la région. Est-ce que vous connaissez la mâche verte de Cambrai?
Oui, alors la mâche verte de Cambrai, c'est typiquement une variété régionale, puisque l'obtenteur est Jules Pucel, qui était un grenier à Cambrai dans les années 1930. Donc elle aurait été inscrite à son catalogue à partir de 1954. Donc la mâche de Cambrai est une variété tardive, hein, très résistante au froid, donc elle est très connue, elle est aussi d'excellente qualité gustative. Hein. Donc on va la semer, alors elle se sème assez tardivement, alors que d'autres mâches peuvent se semer à partir d'août, elle va se semer à partir de septembre à octobre, sur un sol un peu ferme, car la mâche pousse très mal sur un sol ameubli, il faut le savoir. Hein. Donc avant de semer, vous la mettez quelques jours au frigo, hein, et surtout vous ne semez pas les graines de l'année. À partir de 2 ans, elles vont pousser beaucoup mieux. Surtout, pas de graines de l'année, elles vont avoir du mal à germer. Ensuite, quand vous avez semé, vous plombez bien votre sol pour que la graine soit bien en contact avec la terre. Et pendant les 15 premiers jours, il faut vraiment que le sol reste bien humide. Donc s'il faut arroser, s'il fait trop sec, vous devez arroser. Ensuite, vous allez, quand elle va lever, vous éclaircissez à 15 cm en tous sens, et puis vous bignez régulièrement. Alors moi, je vous dirais bon appétit, hein, d'autant que la mâche est très riche en oméga 3, elle contient également des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, donc il faut surtout pas s'en priver.
D'accord. Alors justement, il faudrait peut-être quand même quelquefois expliquer certains termes. Plomber un sol, ça veut dire quoi, Bertrand ?
Alors, quand on fait un rayon pour mettre les graines, oui, qu'on jette à la volée, la terre est un peu amoblie en surface, donc la graine n'est pas vraiment en contact avec la terre, et donc avec l'humidité. Donc, s'il fait un peu de vent, tout ça va sécher, et du coup, il y aura plus d'humidité. Donc, le fait de, avec une planche, ou parfois même en marchant sur le rayon, on va tasser un peu la terre et bien mettre la graine en contact avec cette terre.
D'accord.
Et ça évite de... voilà.
Alors, j'ai une question, Bertrand. C'est vrai qu'on voit beaucoup à présent, même dans les ronds-points, ce qui est très très bien, des hôtels à insectes. Alors, en cette saison, quel est leur rôle ?
Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on en voit un peu partout. Mmh. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Auparavant, les insectes pouvaient se réfugier dans les herbes folles. Maintenant, les pelouses sont tondues vraiment très rases. Remembrement, ça supprime les haies, ça supprime les fossés, les pâtures. Donc, un abri à insectes va accueillir de nombreux auxiliaires du jardin. Donc, les cirfes, les coccinelles, les chrysopes, les abeilles solitaires, les abeilles maçonnes, les carabes, les gendarmes. Il y a plein d'auxiliaires du jardinier. Donc, l'hiver, les coccinelles, par exemple, vont y trouver un abri bien sécurisé. Et puis, il y a plein d'autres insectes aussi qui peuvent venir l'hiver aussi s'y réfugier. Donc, c'est très bien de mettre des abris à insectes. C'est également très bien de laisser des coins sauvages dans son jardin, justement, qui pourront servir également d'abri pour les insectes.
Et puis, Bertrand, eh bien, avant de nous séparer, je vais vous demander l'astuce de la semaine.
Oui, alors, si on parlait un peu d'étiquette, parce que chacun essaie de trouver un feutre permanent... Qui a l'usage, on se rend compte qu'il n'est pas permanent, parce qu'avec les UV et tout ça, ça passe et tout ça. Donc il faut se rendre à l'évidence, on a bien du mal à lire les étiquettes en fin de saison.
Les étiquettes donc, que l'on met dans le jardin.
Que l'on met dans le jardin, oui, effectivement.
D'accord.
Que l'on met dans le jardin, bien sûr. Donc on va écrire, par exemple, on prend une étiquette en bois, on écrit au crayon de bois dessus, ou alors en plastique, mais avec un feutre indélébile, un feutre vraiment permanent. Donc on va faire fondre de la paraffine dans une casserole. Alors, lorsque la paraffine est vraiment liquide et bien transparente, elle devient transparente comme de l'eau, on trempe rapidement l'étiquette du jardin, préalablement écrite, bien sûr. On la ressort tout de suite, on laisse égoutter l'excès de paraffine, on laisse sécher, ça prend quelques secondes, et cette pellicule-là va bien protéger votre écriture. Voilà. Donc, c'est une petite astuce pour conserver, pour pouvoir lire nos étiquettes par la suite.
C'est-à-dire que vous mettez des étiquettes, parce que, c'est vrai que quand on a semé, après, on ne sait plus trop...
Nous, on sème quand même pas mal de variétés différentes. Quand on sème des carottes, on sème des carottes des violettes, des blanches, des jaunes, des rouges. Bon, on aime bien quand même avoir les noms et puis savoir à la fin de saison lesquelles ont le mieux marché pour effectivement l'année suivante en remettre ou pas.
D'accord. Et c'est pour ça que vous mettez donc des étiquettes.
Voilà.
Alors, Bertrand Trinel, en tant que président de l'Association des paysages des jardins des hommes, je crois que vous êtes à la recherche d'un emploi civique. L'êtes-vous encore ?
Oui, effectivement, l'association est à la recherche d'un service civique. Nous recherchons un jeune ou une jeune volontaire de 18 à 25 ans qui ferait 24 heures par semaine pendant 8 mois et ça à partir de mi-mars. Donc on cherche quelqu'un de motivé par la nature et le jardinage. Donc il pourrait, pour nous aider par exemple à encadrer des groupes d'enfants qui viennent nous faire des visites au jardin. Également à nous aider à l'élaboration de pancartes, de fiches, etc. Et puis de notre côté, on pourrait lui apprendre à connaître les plantes, le jardinage, l'apiculture et tout ça. Alors bien sûr, les services civiques sont indemnisés, environ par l'État à peu près, je sais plus, 470 euros, puis un peu par l'association aussi, donc ça fait un peu plus de 500 euros par mois. Par contre, s'il y a des candidats potentiels, ils doivent s'inscrire auprès de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais au 03 21 24 48 77. Alors je répète, 03 21 24 48 77. Mais vous pouvez retrouver aussi tous ces renseignements
sur votre blog. Tout à fait. Sur votre blog figure cet article. Donc les jeunes qui sont intéressés pour, on va dire, c'est un rôle d'encadrement, mais évidemment, il faut être quand même, attiré par la nature, par le jardinage, et puis...
Oui, parce qu'il y aura du jardinage aussi, il y a plein de choses à expliquer aux gens qui viennent aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Merci Bertrand, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Bertrand, très très bonne semaine à vous.
Merci, bonne semaine.
Vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres. Maintenant, la ville est là et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé, me revoilà cherchant.
Diane Tell sur Radio Plus. Alors, à nouveau en point de mire aujourd'hui, Bernadette Capelle, qui nous a dit la semaine dernière avoir été surprise de recevoir la plus haute distinction française qui est la Légion d'honneur. Comme chacun sait, comme beaucoup le dénoncent, cette décoration honorifique a été souvent galvaudée, mais elle reprend tout son sens de récompense d'un mérite lorsqu'elle est remise à quelqu'un de l'ombre, c'est-à-dire quelqu'un de pas connu des médias ou du public. Bernadette Capelle, bonjour.
Bonjour Martine, merci de me recevoir aujourd'hui encore dans votre émission.
Alors, vous êtes récipiendaire de la Légion d'honneur, Bernadette, parce que tout simplement, vous vous êtes engagée depuis un grand nombre d'années dans le milieu associatif dans lequel vous vous impliquez à fond et toujours aux côtés des femmes. D'ailleurs, depuis 2017, vous avez créé Femmes solidaires pour la paix. Alors, bon, il y a eu Femmes et perspectives, il y a eu Mères pour la paix devenue Femmes solidaires pour la paix. Il y a eu aussi le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc, vous vous êtes investie dans beaucoup dans plusieurs associations. Mais alors justement, Femmes solidaires pour la paix, quels sont les objectifs de votre association actuelle?
Alors, si nous parlons de Femmes solidaires pour la paix, c'est une association humanitaire que nous avons créée, un groupe d'amis et moi, en 2005, après trois séjours en Afghanistan. En 2003, je suis allée en Afghanistan parce que notre association avait fait construire, en collaboration avec les Belges, une maison pour les femmes à 50 km de Kaboul. Et j'y suis allée pour l'inauguration. Quand j'ai vu ce qui se passait là-bas, je me suis dit, on ne peut pas laisser des gens vivre comme ça, c'est pas possible. Donc en rentrant, j'allais dire, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai monté une vidéo, j'ai monté un diapo, pardon, j'ai potassé l'Afghanistan que je ne connaissais pas particulièrement, et j'ai proposé au club service, à des groupes, de leur faire un exposé pour pouvoir récupérer de l'argent pour investir là-bas. Et en 2005, nous avons donc construit notre association. Et tout de suite, nous nous sommes dirigés dans le domaine de la santé parce que nombre de nos adhérentes étaient des femmes du milieu médical, des gynécos, sages-femmes, pharmaciennes, etc. Donc, instinctivement, on s'est dirigé dans le domaine de la santé. Donc notre but, c'est d'apporter aux femmes afghanes non seulement des visites médicales, hein, mais aussi un accueil et un soutien.
Mais alors Bernadette Capelle, il y a des pays où en effet la femme a besoin qu'on l'aide de façon médicale justement, mais que peut faire une association comme la vôtre dans un pays en guerre ou dans un pays où la femme est bafouée, tyrannisée, lynchée quelquefois?
Ben, en fait, ce qu'on peut leur apporter, c'est un peu de bien-être, c'est du mieux vivre. C'est justement parce qu'elles sont privées de leur liberté fondamentale, qu'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, ne serait-ce que l'accès de pouvoir sortir librement, de vivre comme n'importe quel humain doit pouvoir vivre de par le monde, que nous devons de leur apporter dans leur vie quotidienne un peu de bien-être. Et se soigner et soigner leurs enfants, ça en fait partie. Mais, oui,
non, allez-y.
Oui,
allez-y.
Les consultations sont en fait pour elles une occasion de pouvoir sortir de leur foyer. Parce que s'il n'y a pas un motif, elles vont rester dans leur maison. Donc elles peuvent sortir, elles peuvent se rencontrer, elles peuvent se parler.
Alors justement, donc on a compris, hein, Bernadette, votre pays de prédilection est l'Afghanistan. C'était quand même un des pays les plus pauvres au monde. Alors cette nation, faut quand même le savoir, compte 23 millions d'habitants et seulement 15% des femmes qui savent lire. Alors aujourd'hui, on connaît toutes et tous cette région du globe comme un endroit où la charia est appliquée par les islamistes, où l'insécurité règne. Alors justement, est-ce que vous apportez une aide à ces femmes, mais est-ce qu'elles ont le droit, est-ce qu'elles ne doivent pas, est-ce qu'elles sont, quand elles vont vers vous, est-ce qu'elles ne sont pas surveillées, est-ce que il y a quand même des difficultés, je suppose?
À partir du moment où les femmes ne rencontrent pas d'autres hommes, le problème en Afghanistan, comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est que les femmes ne doivent pas, elles appartiennent à un homme, elles sont leurs choses et elles ne doivent pas rencontrer d'autres hommes. Elles ne peuvent pas les regarder, elles ne peuvent pas leur serrer la main. Voilà, c'est ça. Or, comme les consultations se font essentiellement, je dis pas uniquement, mais se font essentiellement pour les femmes et les enfants, ça pose pas trop de problèmes.
D'accord. Donc, vous, en fait, oui, vous n'êtes que des femmes qui allez vers ces autres femmes.
Voilà.
Alors,
notre docteur est quand même un médecin.
D'accord. Et là, il a le droit?
Oui. On pensait que ça aurait posé des problèmes, ça n'en a jamais posé.
D'accord. Alors, il faut savoir quand même qu'en 4 ans, 10 000 femmes se sont suicidées ou ont tenté de le faire dans ce pays où les femmes, je devrais dire les filles, car elles sont toujours très jeunes, sont mariées de force. Hein. Alors, vous êtes allée déjà plusieurs fois à Kaboul. Est-ce que c'est facile de rentrer en tant que Française dans un tel pays? Et comment se passe votre séjour à vous, Française?
Alors, je suis allée depuis 2003, donc je suis allée en Afghanistan une vingtaine de fois. Parce que j'y vais, c'est sûr, au moins une fois par an, mais quelquefois deux. Et pour aller dans le pays, on n'a aucun problème. On demande un visa à l'ambassade et le visa a toujours été délivré. Pour ça, il n'y a pas de problème. Nous avons vu quand même sur place des restrictions dans la façon de se comporter à l'extérieur, je dirais, pour nous, occidentales. À savoir que si au départ nous pouvions nous déplacer sans aucun problème, aller partout, etc., petit à petit, peut-être aussi que nous le sommes imposés vu l'insécurité qui montait, petit à petit, nous avons de moins en moins sorties vers l'extérieur. Alors, nos consultations ne se font pas dans Kaboul. Nos consultations, les villages qui sont visités, sont pour la plupart à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul. Sur place, ben, nous accompagnons évidemment notre équipe médicale. Mais effectivement, nous faisons plus attention à la façon dont nous nous dont nous nous comportons là-bas, je dirais. Oui.
D'accord. Et vous n'êtes pas, vous ne devez pas vous voiler ou...
Alors, jusqu'ici, je ne l'ai jamais fait. Mais il est vrai que les amis qui m'accompagnent, elles sont peut-être moins osées et la plupart mettent un voile. Alors qu'on ne le faisait pas au départ. Personne ne le faisait au départ. Mais il est vrai aussi que se promener tête nue, ça attire l'attention. Donc par là même, vous pouvez vous faire repérer. Mais je me dis que moi, à mon âge maintenant, je risque plus grand chose.
Oui, d'accord. Mais enfin, ça prouve quand même que ça ne s'arrange pas, quoi, finalement. C'est pas, on peut pas dire, bon, ben, petit à petit, les lois deviennent, enfin, le comportement devient plus souple, les islamistes deviennent plus souples. Ça ne s'arrange pas du tout, finalement. Allô? Ah, je crois avoir perdu. Eh bien, nous avons perdu Bernadette. Alors, on va mettre un petit peu de musique. Peut-être vais-je la récupérer.
Loin des projos, loin des télés, et des animateurs blaireaux, de ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des proxos. Loin des journaux et des radios, des interviews conformistes par des zombies mongolitos, un peu nazes, souvent fumistes. Loin des questions parfois obscènes, ridicules ou bien vislardes, des nulos de la bande FM, roi de la musique ringarde. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot pénal, dans la lumière tamisée, loin de ce monde de bavards. Loin des boîtes, des fêtes branchées, la jet set et du showbiz, des pétasses cocaïnées et des bellâtres à la dérive. Loin des premières où tout Paris vient poser sans aucun scrupule aux quelques pauvres paparazzis qui aime mitrailler les nuls. Loin des cocktails, des dîners, des mondanités imbéciles, entre starlettes d'un seul été, au cuir frisant le débile. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, avec mes potes, des vrais de vrais, loin de ce monde de fêtards. Manifestations de rue, j'écoute la colère qui fond sur nos dirigeants corrompus. Mais bouger mon cul, m'engager, c'est pas demain que vous m'y reprendrez. À part peut-être José Bové, qui pourrais-je jamais aimer. Je rêve d'un monde plus humain, et je laisse parler ce bras. Les pétitions, c'est plutôt bien, mais vous n'y verrez plus mon blase. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, taciturne, désabusé, loin de ce monde de barbares.
Voilà, une panne de téléphone nous a empêchés de continuer cette conversation avec Bernadette Cappel. Peut-être la retrouverons-nous la semaine prochaine, après tout. Elle avait peut-être encore des choses à dire, Bernadette. Voilà, en tout cas, eh bien, c'était Renaud à qui nous souhaitons beaucoup de courage. Et oui, il vient de se casser les deux poignets suite à une chute. Alors voilà, vous l'avez compris, l'air du temps se termine et peut-être vous retrouverai-je tout de suite après la petite page publicitaire pour enchaîner avec Kaléidoscope, avec ses chansons et sa musique. À tout de suite.